Les festivités de cette fête patronale, placée sous le terme générique de la civilisation du manioc, pour en parler avec nous, Monsieur Vincent Huyghe-Belrose, certainement l'un des plus titrés de nos historiens. Avant la Martinique, Vincent Huyghe-Belrose était en Guyane. Il est arrivé en Martinique avec une agrégation d'histoire, un doctorat de troisième cycle en histoire, un doctorat d'état ès-lettres et de sciences humaines. Originaire de Madagascar, où il était déjà universitaire, il est diplômé de l'école française de Rome. Il est aussi féru d'archives anciennes. Diplômé de des langues orientales, il a aussi fait l'école normale de musique de Paris, dont il est diplômé en piano, un homme complet. Vincent Huyghe-Belrose, qui connaît tout particulièrement bien les Amérindiens et bien entendu les Kalinagos de Dominique.
Les Galibis, qui ne veulent plus qu'on les appelle comme ceci, de Guyane française, sont ce qu'on appelle des Kalinas. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on les appelle. En revanche, leurs parents insulaires s'appelaient Kalinago. Et ces Kalinagos, c'est ce que la littérature coloniale ancienne appelait les Caraïbes rouges. Ils sont associés ou accolés, je ne sais, selon les périodes, à des Caraïbes dits noirs par la même littérature, c'est-à-dire métissés d'Africains qui, eux, s'appellent Kaliponam, et dont une grande partie qui s'était réfugiée à Saint-Vincent a été déportée par les Britanniques au Honduras actuel, où ils survivent en communauté structurée et qui entretiennent d'ailleurs des relations avec tous les autres groupes de langues caribes.
Est-ce qu'il y a une langue commune à tous ces gens ?
Oui, c'est d'abord à partir de critères linguistiques qu'on a reconstitué la parenté de ces populations opposant les Arawaks aux Caribes. La langue caribe que les linguistes orthographient K-A-R-I-B est donc commune aux Galibis des Guyanes, parce qu'il y en a depuis les Guyanes, la Guyane vénézuélienne jusqu'à la Guyane brésilienne, les Caraïbes insulaires, c'est-à-dire qui se sont développés pratiquement par leurs incursions jusqu'au sud de Porto Rico, où ils faisaient des incursions. Mais où il n'y en a plus de traces, puisqu'on n'en connaît ni à Montserrat, ni dans les îles du Nord, et que c'est essentiellement la Dominique et Saint-Vincent qui conservent leurs derniers représentants.
Alors, cette langue caribe, elle est particulière, elle est basée sur...
Elle a été étudiée très tôt d'ailleurs par le père Breton, à la Guadeloupe, dans les années 1640, qui nous a laissé un dictionnaire caribe français et français caraïbe. À partir de quoi, en comparant avec ce que les locuteurs actuels de la langue, telle qu'elle a évolué sur quatre siècles, ils retrouvent les mots, ils retrouvent un peu l'archéologie de cette langue, qui est malgré tout très vivante.
Saint-Vincent et la Dominique étaient donc des territoires neutres où les puissances colonisatrices ne devaient pas s'installer ?
Oui, dans la mesure où au départ, au XVIIIe siècle, on avait estimé que Saint-Vincent et la Dominique étaient terres caraïbes, des terres neutres que ni les Britanniques, les Français ne devaient conquérir. En réalité, des colons venus de la Martinique se sont très tôt infiltrés à la Dominique, où ils ont défriché, établi des habitations, et sont entrés en contact, généralement pacifique, avec les Britanniques c'était moins vrai, avec donc les Kalinagos.
Alors quand vous dites « on avait décidé que Saint-Vincent et Dominique devaient rester des territoires neutres », c'était qui ce « on » ?
Les puissances européennes, maritimes européennes de l'époque, donc essentiellement la Grande-Bretagne et la France avec derrière Espagne et
Hollande. C'était en quelque sorte une façon pour eux de préserver déjà ces populations ?
Ah non, certainement pas. Certainement pas. Si vous lisez la correspondance, par exemple, de quelqu'un comme Blénac, c'était un ancêtre de la solution finale. Lui, il voulait exterminer tous ces sauvages et les liquider. Non, c'était pour éviter une guerre supplémentaire de colonisation entre deux colonisateurs potentiels. On s'est dit, bon, il y a ces Caraïbes qui nous ont bien gênés et bien terrorisés pendant presque un demi-siècle. Laissons-les là et nous n'y touchons pas. Une espèce de traité de neutralité qui a été confirmé à Utrecht, qui a été très confirmé en 1763, et qui avait été précédemment, à chaque fois, c'était une clause des différents traités qui mettaient fin aux guerres entre essentiellement Français et Britanniques.
Et malgré tout, on a des colons, c'est-à-dire que ce sont malgré tout infiltrés en Dominique.
Oui, bon, il y a ce côté-là, mais il y a aussi des mulâtres, énormément partis du nord-est de la Martinique. Et puis, la Dominique est terre de refuge pour les marrons. Tous les esclaves marrons qui savent monter sur un canot ou qui trouvent quelqu'un qui les fait monter sur un canot partent à la Dominique. Et c'était une des raisons pour laquelle on voulait faire la conquête de la Dominique, c'est parce que c'était un centre de refuge pour le marronnage des îles conquises et mises en exploitation esclavagiste.
Donc, d'où le fait que ces Kalinagos ne sont pas restés aussi purs, hein, si on peut employer cette expression, que les Kalibis de Guyane.
Oui. Oui, oui. Très tôt, donc, un mélange entre Amérindiens et Africains s'est produit. Bon, alors, le caractère de pureté que vous évoquez, on le lit déjà dans la littérature du XVIIIe siècle, où pour les Blancs d'Europe qui arrivent, ce sont déjà des dégénérés, puisqu'ils se sont alliés avec une race inférieure et tout. On lit ça, par exemple, dans les lettres de Charles de l'Hiver, ou bien dans des gens plus sérieux, comme Moreau de Jaunès, à la fin du XVIIIe, XIXe siècle. Il n'empêche qu'ils sont entièrement, si on peut dire, caraïbes, par leur langue, leurs mœurs. Et ils appliquaient même l'écrasement frontal des nouveau-nés qui leur donnait, enfin du moins jusqu'au XVIIIe siècle, qui leur donnait cette physionomie très particulière.
Donc le front plat qui caractérisait ces populations ne tenait pas d'un caractère génétique, mais d'une coutume.
Bah ça, d'ailleurs, cette coutume n'a rien d'extraordinaire. On a découvert des populations blanches, là, dans le sud-ouest de la France, qui ont pratiqué jusqu'au 19e siècle cette déformation crânienne sur les enfants. Alors, soit c'était appliqué uniquement aux garçons, soit aux filles, soit aux deux. On mettait une petite planchette avec des bandes de coton qui serraient. Vous savez que le crâne de l'enfant, jusqu'à 2-3 ans, avec les fontanelles, est relativement mou. Et peut-être déformé, mais regardez, toutes les pratiques de déformation corporelle sont universelles. Pensez chez les Chinois avec les pieds, ou même bon, les scarifications, les tatouages, les circoncisions. L'homme a toujours eu tendance à, généralement pour des raisons religieuses, à mutiler ou à déformer son corps.
Mutilé, déformé. Quand on sait que le tatouage est à la mode, ça me fait rire tout de même. Donc vous considérez ça comme une mutilation?
Ah non, ça fait partie du grand phénomène d'ensauvagement des sociétés industrielles, ce retour aux tribus, à des pratiques qu'on va chercher, ces peuples qu'on aurait méprisés il y a 50 ans et que maintenant fascinent. Parce que les gens vivent dans le virtuel ou dans l'imaginaire. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, ce retour au tatouage.
Revenons à notre délégation Kalinagos de Dominique qui vient pour la fête patronale de Chelcher. Est-ce que, en tant qu'historien, vous confirmez que le site de Chelcher représente l'une des premières implantations amérindiennes, d'où le nom d'ailleurs de l'esplanade des Arawaks choisi pour baptiser la place du front de mer?
D'ailleurs, c'est aussi, à ma connaissance, le premier site côtier fouillé à la Martinique. Je crois que c'était Pierre Vérin, avec à cette époque-là comme assistant Mario Mattioni et puis Henri Petit-Jean-Roger, qui ont fouillé à Lens-Madame un site donc, qu'on qualifie dans le vocabulaire des archéologues saladoïde, c'est-à-dire d'une période qui nous situe entre 800 après Jésus-Christ et 1200 après Jésus-Christ, donc la période qui, pour le profane, s'appelle Arawak, c'est-à-dire antérieure à l'arrivée des migrants beaucoup plus belliqueux qu'étaient les Caraïbes. Donc vous avez le site de Lens-Madame, il y a quantité d'autres sites, je pense qu'à Lens-Cola il y a eu quelque chose, il y a la Font-Rousseau, il y a certainement des sites dans près de l'estuaire de la ravine Touza, puisque ce sont des sites qui attiraient les Caraïbes, eau douce et possibilité de prendre la mer rapidement, avec un petit terrain plat pour leur culture. Donc c'est très bien d'avoir parlé de Zarak. Moi j'ajouterais une chose, c'est que Chelcher, à ma connaissance, est le premier endroit à la Martinique où les Blancs, en l'occurrence l'Olive et Duplessis, puis ensuite Desnambucs, ont rencontré les Caraïbes. C'est à Fond-la-Haye que la première croix de plantation, hein, ce rituel religieux d'acquisition d'un sol pris sur quelqu'un d'autre, l'équivalent d'un totem, hein, la croix a été plantée par le père Pélican à Fond-la-Haye, en présence d'un vieil, d'un vieux Caraïbe, le procès-verbal des Capucins donne même son nom, je ne l'ai pas en tête, qui a assisté à la cérémonie, auquel on a demandé de venir s'approcher, de toucher la croix et de cautionner donc, l'opération. Et ça se passait 6 mois avant la fondation de Saint-Pierre, en 1635. Donc, et moi je pense que ce qui s'appelait à l'époque case-navire était beaucoup plus fréquenté par les navigateurs qui entretenaient donc des liens d'échange. Ils se ravitaillaient, ils prenaient du bois, c'était beaucoup plus boisé que maintenant. Ils prenaient peut-être même des femmes, ou ils laissaient en tout cas des jeunes gens parmi la population, ce qu'on appelait les truchements, pour qu'ils apprennent la langue et qu'au prochain passage, ils puissent communiquer, échanger plus facilement. Donc case-navire, c'est un site effectivement que les archéologues appelleront proto-historique, c'est-à-dire un site où on est informé par l'archéologie et aussi par les écrits, les premiers écrits européens.
Toutes ces recherches sont-elles simplement compilées ou font-elles l'objet de parutions nouvelles qui permettraient aux Martiniquais d'être mieux informés de l'histoire de leur île ?
Malheureusement, on a l'impression que l'information se perd à la Martinique. Les écrits de Pierre Vérin existent. Il a écrit sur Sainte-Lucie, sur Lens-Madame. Bon, moi, il y a la bibliothèque du Centre régional d'archéologie, l'ancienne route de Chelcher, vous pouvez aller les consulter. En 1988, il y a eu une commémoration à Chelcher et qui a été l'occasion d'éditer plusieurs plaquettes illustrées où on voyait cette vie des Amérindiens dans le site de Lens-Madame, mettant en valeur les roches polies, les morceaux de tessons, les haches en pierre que l'on avait retrouvées et qui malheureusement pourraient être exposées dans un musée à Chelcher, mais qui sont dans les réserves soit du musée départemental à Fort-de-France, soit dans les réserves du service régional de l'archéologie à l'ancienne route de Chelcher.
Ne serait-ce pas intéressant, vous, en tant qu'historien, que vous repreniez toute cette partie dont vous êtes féru?
Ah, mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, la mairie de Chelcher m'a déjà invité à l'occasion d'une visite. À l'époque, c'était le ministre des Kalinago de la République de l'île de la Dominique qui était présent avec un capitaine, comme les chefs tribaux Kalinago, Kaliponam, là c'est un Kaliponam, se font appeler ou ont été appelés depuis la colonisation. Et j'avais fait une conférence qui d'ailleurs avait eu beaucoup de succès, à ma grande surprise, sur les Caraïbes migrants, où je montrais leur déplacement constant et pourquoi ils se trouvaient aussi bien à la Dominique qu'à Saint-Vincent, qu'en Guyane.
Vincent Belrose, je reviens à l'attaque, les paroles passent, les écrits restent. Quand un livre ?
Mais vous avez des gens qui ont écrit des livres.
De vous ?
Ah, de moi ? Vous savez, je suis trop méticuleux, trop exigeant. Avant de me décider à écrire et à publier quelque chose, il faut que j'ai accumulé une telle masse d'informations pour être sûr de ce que je dis, que ça peut prendre des années. Là, je vous disais tout à l'heure que j'écoute même pas les nouvelles, tellement je suis pris par les archives. C'est presque nuit et jour. Alors, quand je jugerai que... Bon, je ne suis pas un archéologue de la partie amérindienne, hein, je ne fais que de l'archéologie historique. Donc, je me retournerai vers mes collègues archéologues préhistoriens pour sous ce qu'ils ont publié et continuent à publier, parce qu'il y a des publications, et j'essaierai de faire ma sauce avec ma partie, moi, qui est fondée essentiellement sur des archives.
Donc, je suppose qu'à l'occasion de la venue de cette délégation amérindienne de Dominique, on aura très certainement l'occasion de vous entendre en conférence à Chelcher.
Alors, cette fois-ci, on m'a demandé de faire une conférence sur le manioc que je vais présenter comme étant l'assise, l'essence même de la civilisation des Antilles. C'est ce qu'on a appelé la civilisation du manioc amer.
La civilisation du manioc, tel est donc le terme générique de cette manifestation. Mais le manioc, monsieur Vincent Belrose, existe sous 2 formes, le manioc doux et le manioc amer.
Effectivement, le manioc doux que vous pouvez manger tout de suite, qu'on appelle aussi cramanioc, est le frère jumeau du manioc poison, le manioc amer, que si vous le consommez tel quel, va vous envoyer à l'hôpital et peut-être au cimetière, puisqu'il contient un suc vénéneux. Alors, le manioc doux a donné lieu à une civilisation très particulière, qui était celle des Taïnos à Hispaniola, et j'expliquerai en quoi elle est elle parvient presque à une civilisation pré-urbaine à cause des potentialités alimentaires du manioc doux. En revanche, le manioc amer est plutôt un manioc de nomades migrants. Et je reviens à mes Caraïbes migrants. Ce sont ces populations qui se promènent depuis l'Amazone jusqu'à Porto Rico qui emportent le manioc amer. Pourquoi ? Parce que transformé en cassave, il est léger. Il se conserve des années entières sans moisir. Il est peu encombrant. Donc on l'empaquetait sur les pirogues et on pouvait ainsi partir pendant un an ou deux ans avec sa provision de cassave et revenir au point de départ.
Et dites-moi, la différence entre le manioc doux et le manioc amer, est-ce que c'était au départ la plante qui était différente ?
Les plantes sont toujours différentes. Et le manioc doux s'est répandu partout où il y avait une société esclavagiste, parce que ça a été la nourriture qu'on a donnée aux esclaves au Brésil, puis en Louisiane, et mais que les Portugais l'ont introduit en Afrique occidentale, où il a sauvé, finalement, peut-être avec la traite esclavagiste et les razzias. S'il n'y avait pas eu le manioc, au XVIIIe siècle en particulier, il n'y aurait peut-être plus eu beaucoup d'Africains dans cette région. Ils l'ont aussi introduit au Mozambique, mais ils l'ont aussi introduit à Ceylan, à Formose. En revanche, la Chine n'a jamais aimé le manioc. Elle adore la patate douce, mais pas le manioc. Et alors, vous avez l'autre manioc, le manioc amer, qui n'a connu une grande diffusion que lorsqu'on a eu des formes de mécanisation, des moulins, parce qu'il fallait grager en grande quantité, râper ce manioc, le transformer. Et c'est la révolution industrielle qui a donné sa fortune au manioc amer. Aujourd'hui, vous le connaissez sous sa forme de tapioca. C'est comme ça qu'on le consomme universellement. Le manioc amer donne le tapioca, après des transformations que les Amérindiens avaient déjà découvertes. C'est une plante pantropicale, on va dire, qui ne peut pas se développer en milieu désertique. C'est pour ça que l'Afrique du Nord n'a jamais adopté le manioc, par exemple, qui peut aussi pousser en altitude, paraît-il, jusqu'à 1000, 1800 mètres. Moi, j'avais lu 800, mais je viens de trouver une étude qui parle de 1800 mètres et qui exige des soins, certainement, mais un outillage relativement limité, donc que des populations frustes peuvent avoir sous la main. Et c'est une plante qui a été cultivée à la Martinique jusque dans les années 40. C'est le père de Lavarde qui dit que la production s'est effondrée dans les années 1936. Toute la production, hein, manioc doux, aucun manioc, et manioc amer.
Pour quelle raison cette production s'est effondrée ?
Moi, je pense que les gens ont cessé de consommer le manioc amer sous la forme de la cassave, hein, puisque le pain a complètement fait disparaître cette forme d'aliment d'accompagnement, ou ce qu'on peut tremper dans un bouillon, dans la soupe. Les Martiniquais avaient abandonné la consommation du couac depuis le XVIIIe siècle, alors qu'elle s'est maintenue en Guyane. Et il ne restait plus que la farine. Mais vous savez bien que la farine, on la met dans le féroce, on la saupoudre sur les haricots rouges, mais que ce n'est plus la base, même le fondement de l'alimentation. Quant au manioc doux, on l'avait développé pour les immigrants indiens, chinois ou indochinois et africains. Et c'est pour ça qu'on a eu une montée des plantations de manioc doux à la fin du 19e siècle. Mais comme eux aussi se sont mis au pain et aux modes alimentaires des créoles qui les environnaient, eh bien, il n'y avait plus d'acheteurs. En revanche, si vous regardez La Réunion a su industrialiser. Ils ont monté de véritables féculeries. Et dans les années 50-60, c'était une partie importante, l'exportation de fécule de manioc, donc produit avec le manioc amer, hein, de La Réunion, vers l'Europe, ou vers d'abord la métropole, et puis l'Europe en général. C'est un gros producteur.
Et on s'en servait en Europe pour faire quoi ?
Eh bien, on a découvert au début du 19e siècle que le manioc permettait à ceux qui le digéraient mal de consommer du lait. Donc on s'est mis à donner à tous les enfants qui avaient des problèmes d'alimentation lactée du lait ou des aliments lactés, mais à base de manioc, c'est-à-dire fécule de manioc ou surtout le tapioca. Et le tapioca a sauvé des générations d'enfants en France à partir du 19e siècle, à une époque où la démographie chutait, je vous le rappelle. Et de là, ça s'est développé. Mais Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi on a attendu le 19e siècle pour découvrir les vertus du manioc.
Alors, répondez-moi.
Moi, je pense, comme c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. En réalité, on n'invente rien. Jacques Petit-Jean Roger avait relevé que les Blancs avaient une espèce de crainte superstitieuse vis-à-vis du manioc. Parce que le manioc, c'est à la fois un poison et une manne alimentaire. Et ils ne savaient jamais à quoi s'en tenir. Donc ils sont restés hésitants devant. Il n'y a pas que les peuples non européens qui sont superstitieux, heureusement pour l'humanité. Et donc c'est là qu'ils mettaient une crainte. À la limite, on pourrait dire que pour les Amérindiens, le manioc c'était un don de Dieu, et que pour les Européens, longtemps, ça a été un don du diable. Donc ils s'en méfient. Oui, dans l'autre, mais d'autant plus que jusque dans à ce qu'on fasse des études d'épidémiologie vraiment sérieuses, on a cru que la typhoïde, le typhus ou même la fièvre jaune qui ont ravagé les troupes de terre ou de marine qui venaient stationner à la Martinique devenaient malades et mouraient parce qu'on leur donnait de la farine de manioc ou de la cassave à manger au lieu de la farine France, la farine de blé. Ah oui, j'ai vu des rapports extraordinaires là-dessus. Le dernier en date étant celui de Villaret-Joyeuse, dans les années 1809, où la flotte qui était présente, comme la garnison, ont été décimées. Il était persuadé que parce qu'il mangeait de la farine de manioc.
Monsieur Vincent Belrose, alors je vais vous dire qu'on vous écoute que pendant des heures, vous êtes passionnant. Pour vous pouvoir vous écouter et vous découvrir, ce sera l'occasion, cette fête patronale, où vous allez tenir une conférence. La fête patronale commence le 21 et s'achève le 24, hein, c'est pendant 3-4 jours. Et votre conférence, elle aura lieu quand exactement?
Alors j'ai été invité pour la seconde, ah non, en réalité la troisième fois, mais cette fois-ci la deux secondes sur le thème des Amérindiens, par donc la mairie de Schœlcher, à faire une conférence samedi 23 à 9h dans la salle du conseil de la mairie.
C'est-à-dire au premier étage de la mairie, c'est la salle des délibérations.
Les délibérations, voilà, cherchez alors, le mot exact.
On conseille à tout le monde de venir vous voir parce que vous êtes franchement passionnant.
Ben vous pourrez poser des questions parce que c'est à ce niveau que ça devient intéressant parce que m'écouter parler, vous finiriez par vous endormir.
C'est loin d'être le cas.
Merci. Mais il vaut mieux toujours avoir des échanges, ça crée une animation et moi j'adore ça.
Et puis ce sera aussi pour vous l'occasion de rencontrer ces gens que vous connaissez certainement des Kalinagos parce qu'il y a, il y a une délégation qui sera sur place.
Alors si c'est la même qu'il y a deux ans, oui, je vais retrouver le chef, le capitaine, là, qui était un bon vivant.
Je vous remercie, monsieur Vincent Hubert-Rose.
Eh bien, je vous remercie également, en espérant que je ne vous ai pas trop ennuyé.
Ah, loin de là. Loin de là, je suis... Au contraire, je suis bluffé.